Alors, si vous avez pensé en venant ici ne pas entendre au moins pendant une heure parler de gilets jaunes, je pense que ce que je dois vous prévenir, c'est raté. Qu'est-ce qu'un gilet jaune? Jusqu'à il y a 10-15 jours, un gilet jaune, c'était ça. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, un gilet jaune, c'est ça. C'est une personne identifiée au vêtement qu'elle porte sur elle, un vêtement qui est lourd en symbole, et le symbole est même si fort que je pense qu'aujourd'hui, si je trouvais un gilet jaune arrêté sur le bord de la route, quelqu'un qui a revêtu ce gilet parce qu'il est en panne sur le bord de la route, je pense que pendant quelques secondes, je le prendrai pour un gilet jaune et non pour un conducteur en détresse. Ça cogne trop ou... Et en ce jour de baptême, je vous invite à réfléchir au sang de Jésus. La Bible nous dit que les croyants sont comme revêtus de ce sang. Et plus encore, que c'est au travers... Je pense qu'on va arrêter, hein, Nicolas, non ?
C'était un premier essai pour aujourd'hui, donc à perfectionner, c'est sans doute très bien. Mais... Donc on disait que la Bible nous dit que les croyants sont comme revêtus de ce sang. Et plus encore, c'est au travers de ce sang que Dieu les considère, et plus encore, Dieu les voit comme purifiés et lavés par ce sang. Et le baptême des nouveaux croyants est toujours l'occasion de rappeler le sacrifice de Jésus. Éric l'a évoqué dans la signification du baptême il y a quelques instants. Mais de quel sacrifice parlons-nous? Car Jésus n'a pas consenti qu'un seul sacrifice. Il était le Fils de Dieu au départ, partageant sa gloire. Il a renoncé à cette gloire pour devenir un simple homme. Et il faut bien mesurer cela. Le Créateur qui accepte de passer aux yeux de sa créature pour l'un des leurs. Il s'est imposé nos limites physiques et matérielles. Deuxième sacrifice, il a partagé avec ces mêmes créatures leurs difficultés et leurs souffrances, alors qu'il était innocent de tous les écarts qui avaient engendré ces souffrances, parce que lui les avait créées droites et qu'elles se sont détournées de ce chemin de droiture. En plus de cela, il a supporté l'injustice de toutes parts, toujours de ses créatures, parfois même de celles qui étaient chargées de garantir la justice. Même ses propres parents, ses disciples ont eu du mal à le comprendre. Ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Ça, c'est dur. L'incompréhension de vos proches, de ceux qui dont vous pourriez naturellement attendre un soutien. C'est un énorme sacrifice que d'aller de l'avant dans sa mission, dans ses conditions. Et nous en arrivons au sacrifice ultime, celui qui consiste à donner sa vie. Parce que il faut pas s'y tromper, l'histoire de Jésus n'est pas l'histoire qui aurait mal tourné d'un illuminé qui n'aurait pas pu échapper à la mort. Même ses ennemis qui le raillent alors qu'il est sur la croix le reconnaissent implicitement, malgré eux. Il en a sauvé tant d'autres, disent-ils. Et oui, il était connu pour ça. Pour guérir les malades, on accourait vers lui de toutes parts. Il rendait la vue aux aveugles, relevait les infirmes. Il a même redonné vie à une main desséchée et Anne-Marie l'a rappelé, on a lu en longueur toute cette histoire. Il a même redonné la vie à un corps en putréfaction, le corps de son ami Lazare. Longtemps, il a su se préserver des complots fomentés contre lui et des arrestations dans les lieux publics parce qu'il avait conscience que sa mission n'était pas arrivée à son terme. Par contre, quand ce fut le cas, il a averti ses disciples que cette nuit même, il serait arrêté et condamné à mort. Et là, il ne fait rien pour s'esquiver, contrairement aux fois précédentes, et se laisse interpeller sans résistance pour être condamné et crucifié le lendemain. Non, l'histoire de la crucifixion, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui n'a pas le moyen, qui n'a pas trouvé le moyen d'y échapper. Il l'avait même dit d'avance. Je donne ma vie. Personne ne la prend. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et le fait est qu'il a vaincu même sa propre mort en ressuscitant alors qu'il avait été déjà mis au tombeau. Un sacrifice n'est vraiment un sacrifice que s'il est consenti. Sinon, c'est un aléa de la vie, un accident, un vol par exemple, une injustice subie. Et même si cette injustice conduit à la mort, elle n'a pas valeur de sacrifice tant que la victime n'y consent pas pleinement. Et donc, le sacrifice dont il est question aujourd'hui et qu'on rappelle par le baptême, est bien celui consenti par Jésus, le Fils de Dieu, un sacrifice ultime qui va jusqu'à donner sa vie. C'est un sacrifice de sang. Et voici comment la Bible en parle. Nous allons nous appuyer sur un texte. Elle s'adresse là à des personnes qui ont décidé de devenir disciples de Jésus, comme Linda et Jean-Albert il y a quelques instants. Pour ceux qui veulent le lire, elle se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, mais sinon, je vais vous lire et c'est le texte qui s'affiche à votre écran. Béni soit Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Par son sang. Le sang de qui ? De Jésus-Christ, bien sûr. Le sacrifice de Jésus-Christ, son sacrifice ultime, qui consiste à donner sa vie pour racheter. Vous voyez les mots, peut-être de loin ça ne se voit pas très bien, les mots qui apparaissent en orange, hein, les mots que je souligne au cours de notre lecture, qui a donné sa vie pour nous racheter, pour pardonner nos fautes, conformément à ce qui est dit, à la richesse de sa grâce, c'est-à-dire nous gracier au sens premier du mot. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette semaine, c'est une tradition américaine hein, qui existe depuis des lustres, je suppose. Donald Trump a gracié une dinde qui, normalement, aurait dû finir la casserole au four. Avant que la peine de mort soit abolie en France, il existait ce que l'on appelait la grâce présidentielle. Le président de la République avait ce pouvoir de gracier un condamné à mort qu'il sollicitait, alors même que la justice l'avait reconnu coupable et que tous les recours avaient été épuisés. La grâce présidentielle n'était pas accordée au regard d'un quelconque mérite, mais par simple humanité envers une personne que le président de la République estimait repentante et capable de mener une vie honnête. Mais cette grâce avait ses limites et elle ne s'appliquait qu'à la condamnation à mort. Et bien sûr, la personne restait malgré tout en prison et généralement à perpétuité. Vous ne risquiez pas de la croiser dans la rue le lendemain matin en train de se promener tranquillement. La grâce de Dieu va beaucoup, beaucoup plus loin. Car il nous est dit que Dieu nous l'a accordé avec abondance, c'est-à-dire littéralement qui déborde au-delà de toute mesure. L'opposé de cela, ce serait une grâce parcimonieuse qui pourrait s'exprimer par une phrase du genre « ça ira pour cette fois-ci, mais n'y revenez pas ». Non, rien de tout cela. La grâce qui nous est faite est pleine, entière et définitive. Et le même auteur de ces lignes écrit par ailleurs « Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ ». Fini. Terminé. Nous pouvons nous promener tranquillement dans la rue en bénissant Dieu joyeusement pour cette grâce qu'il nous a faite et par définition, que par définition, nous ne méritions pas. Vous noterez aussi le terme affectif qui est employé ici. Les croyants en Jésus-Christ deviennent ses enfants adoptifs. Tout cela, la grâce et l'adoption, par son sang, par le sang de Jésus-Christ. Pas un petit sacrifice, il s'agit du sacrifice de Dieu lui-même. Pas un faux sacrifice qui serait en fait une histoire qui aurait mal tourné, une mort à laquelle il n'aurait pu échapper. Non, véritablement un sacrifice volontaire du Créateur qui donne sa vie pour sa créature. Ensuite, je saute quelques lignes et nous passons au chapitre 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère comme les autres. Tout comme les autres. Petit passage nous fait revenir en arrière sur ce que nous étions avant ce moment béni où nous avons été graciés et adoptés par Jésus-Christ, juste pour nous montrer de quoi nous avons été graciés, de quelles conditions nous avons été arrachés. Mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Mort, rien de moins que tout cela. Mort, vivant en apparence, mais déjà mort, parce que notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, et que nous étions, par notre condition même, destinés à la colère. De quelle colère est-il question ici ? De la colère de Dieu, bien sûr. Colère justifiée précisément par nos fautes, une conduite uniquement dictée par la seule satisfaction de désirs propres. Des désirs qui ne sont pas forcément mauvais en soi, mais asservis par les volontés de la nature humaine et de nos pensées, ainsi que c'est dit ici, et non inspirés par la volonté et la pensée de Dieu. Voilà le tableau sans concession qui nous est fait de ce que nous étions avant d'être graciés et adoptés par le Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture. Mais, chouette, il y a un mais. Mais, Dieu est riche en compassion. L'instant d'avant, nous étions sur la colère de Dieu. Et là, il est question de compassion ou encore du grand amour dont il nous a aimés. Alors Dieu aurait-il finalement décidé d'abandonner la colère ? Serait-il, comme nous pouvons l'être parfois, enclin à passer d'un sentiment à l'autre en quelques instants ? Nos enfants nous mettent parfois dans des situations où nos sentiments se font concurrence. Mais s'agissant de Dieu, je crois que c'est pas ainsi que nous pouvons le voir. Je dirais plutôt que Dieu a décidé de nous montrer son grand amour alors que sa colère n'était que ce que nous méritions. Et c'est ce qu'atteste cette phrase. Il a fait cela afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce. Encore un rappel du côté infini, débordant, surabondant de sa grâce, une grâce qui prend son origine dans son amour pour nous. Nous, une fois, nous étions encore une fois rappelés, qui étions morts en raison de nos fautes, on a encore ce rappel, morts en raison de nos fautes, mais à partir de maintenant, dans les temps à venir, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'une place est désormais réservée, nous est désormais réservé dans le ciel, ce qui, bien sûr, n'était pas le cas avant. Et j'ai pas lu le texte que je suis en train de commenter. Mais Dieu, qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et donc le moyen par lequel nous passons de la première, notre ancienne condition, à la seconde, de gracier, d'enfant adoptif, ça nous est dit ici, c'est par le moyen de la foi. Dans un autre texte, le même auteur dit que le sang de Jésus a été versé pour ceux qui croiraient, pour ceux qui croiraient en lui. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a accepté d'être la victime de la colère de Dieu qui, normalement, aurait dû nous atteindre. Si nous croyons cela, si nous recevons pour nous-mêmes le sacrifice de Jésus, son sang versé sur la croix, alors nous devenons les nouveaux graciés, les nouveaux enfants adoptifs qui ont une place réservée pour eux dans le ciel. Alors, s'il est nécessaire de croire, pourquoi est-ce que l'auteur dit « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ». Croire ne viendrait-il pas de nous ? La foi serait-elle un don de Dieu ? Il existe une idée assez répandue selon laquelle les uns seraient faits pour croire et les autres non, que les uns ont la foi comme ils auraient les pieds plats, tandis que les autres ne l'auraient pas, et tout ça au nom du gène tout-puissant. Et en fait, l'explication se trouve dans la phrase suivante. Ce n'est pas par les œuvres. Ah, d'accord. Ok. Le moyen par lequel nous accédons à la grâce de Dieu, c'est par la foi, c'est en croyant au sacrifice de Jésus, et non en multipliant les bonnes actions de toutes sortes dans l'espoir de mériter un tout petit peu au moins la grâce de Dieu. Remarquez, c'est logique, hein. Si on pouvait acheter la grâce ne serait plus la grâce. Nous nous retrouverions immédiatement confrontés à notre incapacité totale, à notre incapacité à satisfaire la justice de Dieu dans sa totalité. Et précisément, c'est de ce constat que nous venons de partir, que nous sommes partis juste avant. La grâce n'est pas à vendre. La grâce est à saisir quand elle se présente. Et peut-être ce matin, la grâce se présente-t-elle à vous sous l'image de ces deux nouveaux baptisés qui en ont témoigné pour eux-mêmes. Alors la grâce, saisissez-la par la foi. Croyez en celui qui a versé son sang et subi la colère de Dieu à votre place. Revêtez-vous du sang de Jésus. Identifiez-vous à lui et laissez-le faire de vous son enfant adoptif. Si vous éprouvez le besoin d'être accompagné dans cette démarche, ou si vous voulez à votre tour publier votre foi par le baptême, venez nous trouver, Eric ou moi, dès la fin de ce culte, ou dans les jours à venir. Je vous remercie.